Bonjour à tous et toutes, vous écoutez Happy Radio. Si vous nous écoutez en podcast, l'interview a été faite le jeudi 5 juin, jour de la fête de la radio en France. Pour l'occasion, nous avons ouvert nos portes à vous, auditeurs et auditrices, et à tout le monde en général. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avons le grand plaisir, l'honneur même d'avoir dans nos studios un grand monsieur de la radio, désormais installé dans le Périgord à Montignac, après plus de 40 ans d'expérience dans ce monde de la radio, et dans les grands noms donc, RTL, France Bleu ou encore Sud Radio, monsieur Claude Aymer, bonjour.
Bonjour.
J'ai toujours une première question, je la pose à tous mes invités, c'est de savoir comment ils vont, comment vous allez.
Ah bah écoutez, fort bien, on est parfaitement bien dans le Périgord, puisque je suis installé pour quelques années à Montignac-Lascaux, à deux pas, mais vraiment deux pas, du centre pariétal et de la grotte 4 et de la grotte 2, un endroit très très agréable, au fil de la Vézère et de la Dordogne, et je passe très très bonnes années de repos, puisque je suis maintenant totalement retraité, ce qui ne m'empêche pas de penser à la radio et à l'invitation de Rodolphe. J'ai bien entendu accepté de venir ici pour fêter avec vous la radio, qui reste pour moi le plus beau média qui existe.
C'est un beau message, Rodolphe Karmazine, le président de la radio. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à venir à Montignac, vous installer dans le Périgord?
Tout simplement pour accompagner mon épouse, qui est médecin généraliste et qui a eu connaissance d'un poste, ce qui n'a rien d'exceptionnel, d'un poste libre vacant à Montignac. Et donc, comme nous connaissions Montignac pour y avoir passé des vacances, et bien on s'est dit, tiens, allons-y, moi je n'ai aucune attache, je suis libre comme l'air, donc j'ai suivi mon épouse.
Non, mais en plus c'est une très jolie ville quand même, Montignac.
Très belle ville,
donc
très beau.
Vous êtes bien installé. Ouais. Bon, rentrons dans le vif du sujet, on va retracer
Parlons
votre
radio.
Carrière, voilà, votre longue carrière en radio qui a démarré en 1977, ça a été une date marquante pour vous, il me semble.
Ah ouais, 1er mai 77.
1er mai.
J'ai travaillé le 1er mai 77 à la rédaction, parce que j'ai commencé par la rédaction de RTL, où je découpais les dépêches à l'époque. Et ouais, il y avait des telex. Et on était dans la salle du desk, et on découpait les dépêches, infos gênées, infos étrangers, et on allait les distribuer dans les différents services de la station. Voilà comment j'ai commencé. Au bout de quelques mois, j'ai commencé un peu à m'exciter, à savoir si je pouvais sortir de ce desk pour voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Et il y avait à l'époque une émission qui s'appelait Appelé On Est Là, qui était animée par Léon Zitrone, et qui était juste au-dessus, dans les studios dits de variété, qui n'étaient pas les studios d'info. Et je suis monté, et j'ai vu effectivement le Big Léon dans son studio en train de faire son émission. Et à côté, il y avait des rangées de standards. Il y avait un jeune, un monsieur qui, visiblement, si j'avais bien compris le sens de ce qu'il disait à un interlocuteur au téléphone, il cherchait un standardiste pour l'émission de Max Meynier qui avait lieu à l'époque à Calberson. L'émission « Les routiers sont sympas ». Donc j'ai attendu la fin de la conversation, je me suis approché de lui, je lui ai dit « Écoutez, j'entends que vous cherchez un standardiste le soir à Calberson ». Oui, effectivement. Ben, je lui ai dit « Ça m'intéresse ». Et je me suis retrouvé le soir même à Calberson, au standard de l'émission de Max. Et puis voilà, et puis je fais pas... et puis de fil en aiguille...
Donc votre aventure a commencé.
Voilà, l'aventure a commencé. J'allais dire, à l'époque, c'était encore possible. Je suis pas sûr aujourd'hui que tous les jeunes qui veulent faire de la radio, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et Dieu sait qu'ils ont raison, je suis pas sûr qu'ils aient encore cette chance
De pouvoir y aller comme
de,
ça
de pouvoir y aller spontanément et être immédiatement embauché. Alors après, il y a de la chance, un facteur chance indéniable, et puis il y a quelques affinités, quelques compétences avec le média, et ça c'est la suite et c'est le reste qui reste à parcourir dans les couloirs de la radio.
Et vous avez côtoyé à RTL des grands noms, donc on peut citer Patrick Sabatier, Julien Courbet.
Qu'est-ce que ça vous a fait
de travailler à côté de ces grands noms?
Pas grand-chose, parce que c'était naturel. On avait besoin d'eux et eux avaient besoin de nous. Donc on travaillait en parallèle, mais conjointement, et l'un apportait la nourriture à l'autre. Hein. Nous étions soit réalisateurs, soit assistants. Et notre job était d'apporter une émission clé en main. Et lui, l'animateur, que ce soit Patrick... j'ai commencé avec Maurice Favière déjà le matin, très tôt. Mais après, avec Patrick, où j'étais son réalisateur, lui mettait mettait en musique, mettait en forme tout ce qu'on avait préparé, tout le contenu de l'émission, et lui sublimait ce contenu.
Et la passion que vous avez pour la radio, elle est venue en travaillant à RTL ou elle était déjà présente avant?
Oh là là, bien avant. Non, ouais. Bien avant. Mes parents étaient, on avait un poste TSF, alors vraiment le poste TSF en bois, et à 1h moins le quart, nous déjeunions et nous avions l'obligation de nous taire puisqu'il y avait le jeu des 1000 francs. À l'époque, avec Roger Lanzac, ça remonte pas aujourd'hui. Après, il y a eu Lucien Jeunesse, il y a eu Louis Bozon, si je ne me trompe, et là, il y a mon camarade Nicolas Soufflet qui l'anime, et j'étais impressionné par cette boîte où on entendait des gens, et moi, je croyais naïvement qu'ils étaient là, qu'ils faisaient ça en direct. Et quand j'entendais une musique, je pensais qu'il y avait le chanteur qui chantait instantanément et en direct dans le poste de radio. Et ça m'a toujours fasciné. Et quand j'ai dit à mon père, à mes parents, voilà ce que je veux faire de la radio. Alors inutile de vous dire que lui, qui était un homme de culture, il n'a rien compris à la chose. il me dit, regarde si tu trouves une école pour faire de la radio. Et à l'époque, il y avait un institut privé supérieur d'animation, l'IPSA, qui était animé par un mec qui s'appelait Daniel Hermelin, à Paris, à côté de l'Élysée. Et c'était 7000 francs par an à l'époque pour faire cette école, qui était totalement bidon. On a vu deux fois Léon Zitrone venir faire un cours... passe la tenue de cours, Drucker qui avait dû passer, bref, c'était du pipeau. Il y avait quand même un studio de radio et un studio de télévision, je me souviens. Et puis voilà, au bout de la première année, il fallait qu'on trouve un stage. C'est pas eux qui nous le fournissaient, évidemment que c'était à nous à le trouver. Donc je suis allé au culot, frapper à la porte de la rue Bayard, à RTL. J'avais découvert qu'un journaliste de l'époque, un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Yves Roger, avait une maison de campagne dans la Creuse, d'où je suis originaire. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, oh, on a un point commun, on a la passion de la Creuse, tous les deux, ah c'est très bien, ah, ben venez me voir. Et c'est comme ça que je suis arrivé à RTL, au Dépêche.
À RTL et au Dépêche, mais vous avez gravi les échelons, on va dire, parce que de 1995 à 2002, si c'est bien ça, vous êtes devenu le directeur de production d'RTL. Vous avez fondé des émissions comme Zikoué, par exemple. Quel est ce rôle de directeur de production, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous sont venues donc toutes ces idées?
Alors, ce rôle de directeur de production, il est, comme son nom l'indique, chargé de la production. Et pour produire, il faut avoir de la matière première. Et la matière première, à l'époque, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un peu dilué, c'est les concepts. Dans une radio, il faut des concepts. Une radio généraliste comme RTL, il faut des concepts, que ce soit de jeu, que ce soit des concepts sociétaux, que ce soit des concepts de débat, bref. Il faut des concepts. Et autour de moi, j'avais les réalisateurs, les concepteurs-réalisateurs d'ailleurs, on les appelait ainsi, et régulièrement, on se retrouvait dans mon bureau et on cogitait pour trouver des idées. C'est comme ça qu'on a imaginé La Clé des Mondes, c'est comme ça qu'on a imaginé pour Julien Courbet l'invité de la 11e heure. Bref, on a trouvé des concepts pour le matin, pour l'après-midi, mais il fallait tout le temps se régénérer et trouver de nouvelles idées.
Oui, je pense aujourd'hui c'est des idées qui venaient vraiment.
C'était uniquement, on n'allait pas acheter une licence à l'extérieur. Oui. C'était des idées qui étaient entièrement créées par les équipes de RTL.
Et pour vous, c'est ce qui d'ailleurs fait l'identité d'une radio comme RTL, donc d'avoir créé ses propres concepts.
Qui faisait l'identité de RTL, oui, absolument.
Oui, absolument. Ça a changé, évidemment.
Absolument.
Notamment donc depuis votre départ.
Mais j'ai entendu dire que ça allait revenir, ça me réjouit.
Ah, bah, c'est une plutôt bonne chose. Donc vous avez fait plus de 20 ans à RTL.
25 tours.
Et vous êtes arrivé donc chez une autre grande maison, France Bleu, Sud-Lorraine d'abord, puis Île-de-France, si
voilà.
C'est bien ça.
Directeur de Sud-Lorraine. Rennes et de... Vous avez bien étudié le dossier, c'est bien. Bon, et, bon point pour Rodolphe, c'est un bon point pour notre ami. Hein.
Et pour vous, ce départ chez RTL, de RTL pour France Bleu, c'était une manière de faire un nouveau départ ou de voir ça comme une continuité?
Non, c'était... Alors, j'ai quitté RTL au bout de 25 ans. D'abord parce que j'étais en désaccord avec le nouveau président Robin Leproux. Je n'avais pas du tout apprécié tout ce qui s'était passé avant et... la mise à l'index du directeur général Stéphane Duhamel qui a été viré, disons que c'est lui qui a porté le chapeau d'un certain nombre d'erreurs, erreurs faites en collégialité. Et donc Robin m'a dit, voilà, si vous voulez partir, on vous propose de partir. Et autrement, je vais faire en sorte que la nouvelle directrice des programmes vous écoute parce qu'on a besoin de vous. Et quand je suis sorti de son bureau, je savais que je devais partir. Donc, depuis 25 ans, j'ai des collègues à RTL qui ont fait entièrement leur carrière à RTL. C'est un parcours monolithique. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Donc, après, j'avais pris des relations avec les équipes de Radio France, Jean-Marie Cavada, François Desnoyers, et je savais que j'avais un point de chute. Donc, première étape, ça a été directeur de Nancy, où là, j'ai apporté évidemment un peu de sang neuf avec des méthodes du privé, ce qui n'a pas été facile, je vous prie de le croire. Et puis, 3 ans passés à Nancy, les résultats étant là, on m'a proposé de prendre France Bleu à Paris, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Là, pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'arrêter, parce que c'était ma santé ou...
Ou la radio.
Ou la radio, c'était la radio ou ma santé, absolument. Et après, le président de l'époque, Cluzel, m'a proposé de prendre la direction de la radio d'autoroute à Senlis, et donc j'ai couvert les autoroutes du Nord, de l'Ouest et de l'Est, pour la SANEF, au nom de Radio France, qui était le prestataire de service.
Et justement, j'allais venir, donc c'était Radio Vinci, c'est ça le
non,
nom
Non, non, non Radio Vinci, c'était le concurrent. Nous, c'était SANEF.
Ah, pardon, oui.
C'était Radio 107.7 SANEF. Enfin, comme toutes les la fréquence est identique pour toutes les... Pour tous les opérateurs autoroutiers, c'était 107.7, nous c'était SANEF. L'autre côté, il y avait Vinci Autoroute, et il y a aussi A2PRR, si je ne m'abuse, sur l'autoroute, les autoroutes de l'Est, Bourgogne, etc.
Et au sein de France Bleu et de SANEF, votre rôle c'était d'être le directeur de la radio.
Diriger la radio.
Très bien. Et donc on peut ajouter à ça d'autres expériences, notamment donc Sud Radio. Vous avez donc...
Très courte.
Oui, mais vous avez donc jamais quitté ce monde de la radio. C'était une volonté de votre part? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous aviez l'envie peut-être d'aller à la télé, peut-être non. D'autres médias, de changer ou
non,
toujours la radio?
Non. C'est une passion que j'ai assouvie jusqu'au bout. J'avais aucune raison de changer. J'ai eu la possibilité de travailler en télé. J'ai un peu travaillé en télé avec Nagui, mais très vite... On m'a demandé de revenir en radio, ben je suis revenu en radio, puis voilà.
On avait besoin de vous et
oh,
vous
êtes revenu. Oui, on avait besoin de quelqu'un, je ne sais pas si c'était de moi, mais on avait besoin de quelqu'un, ça c'est sûr.
Et à travers donc toutes ces expériences, toutes ces radios que vous avez faites, il y avait tout le temps l'envie d'apporter de la nouveauté, de se renouveler pour vous?
Oui, c'est essentiel. Et j'ai pris comme devise que je mets dans ma présentation sur le réseau X, cette phrase de Gaston Bachelard, que je vais essayer de vous retrouver à l'instant. La radio est passée de la conversation de café à la parole cosmique. Elle a le devoir de se renouveler et de ne jamais se répéter. C'est une règle. Elle a le devoir de se renouveler et de ne jamais se répéter. Renouveler quotidiennement. Et même pour ceux qui la font, le matin, quand j'arrivais rue Bayard, je ne vais pas avoir l'impression de faire la même chose que la journée précédente. Évidemment qu'on fait la même cuisine. Mais il faut avoir des gestes différents quotidiennement. Absolument.
Et parlons un peu plus, on a parlé donc de toutes vos expériences, mais parlons un peu plus de la radio en général. Un média qui reste toujours aussi important, mais qui fait face donc à de nombreux défis, notamment donc qui voit le développement des plateformes de streaming pour les musiques, le développement du podcast. Comment, selon vous, la radio doit travailler pour s'adapter à ces nouveaux enjeux? Vous l'avez dit, donc se renouveler. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux à affronter?
Vous l'avez résumé, elle doit s'adapter et prendre en compte chacun de ces nouveaux paramètres. C'est-à-dire que la radio traditionnelle telle que nous la connaissons, telle que nous l'avons faite, eh bien, elle ne doit pas disparaître à l'avantage de ces autres plateformes, de ces autres relais, que ce soit le streaming, que ce soit les podcasts, que ce soit le DAB, autre nouveau moyen de diffusion. Il faut que tout le monde, que tout ce petit beau monde travaille ensemble. Mais la radio, c'est d'abord la voix, c'est d'abord l'échange entre un animateur, entre un journaliste et un auditeur. Ça, c'est la base, ça ne changera pas. Que ce soit en direct, que ce soit sur podcast, c'est toujours un rapport auditeur-animateur. Animateur, n'oublions pas que c'est donner la vie. Donner la vie aux mots, donner la vie à l'information, c'est être en échange permanent entre celui qui émet et celui qui reçoit, l'animateur, le journaliste, l'auditeur.
D'être concernant et concerné.
Donc, d'être concernant et concerné.
Pour l'auditeur. Et je vais poser un peu une question couperée finalement, mais du coup, avec tous ces enjeux-là, vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir de la radio ?
Ben, je peux pas dire autre chose. Évidemment qu'il faut être optimiste. Optimisme ne veut pas dire ne pas voir les dangers. Il y a des écueils. Je pense qu'on est déjà tombé dans certains d'entre eux. Il faut s'en relever et il faut avancer. La peur n'évite pas le danger. Donc, oui. Voilà, il faut avancer. En sachant que plus on va avancer, plus les écueils seront nombreux. Mais il y a un seul point commun, c'est la capacité d'émettre et de recevoir. La radio, c'est ça. La radio, c'est la voix. Alors maintenant, il y a effectivement la réalité augmentée. Voilà, oui. Merci. La réalité augmentée. Mais au départ, la radio, c'est pour être écouté.
Bien sûr. C'est le principal.
Ah ben oui, mais
c'est le cœur de la radio.
Si le devoir de l'image, si le fait de devoir apporter des compléments à la voix fait que la voix devient moins importante que cette réalité augmentée, on perd complètement la vocation première de la radio.
De la radio, oui. Et d'ailleurs, vous avez fondé CH Conseil, il me semble.
Oui, mais ça, ça y est, je suis retraité, ça n'existe plus.
D'accord.
Mais ça m'a permis de faire des formations.
Mais justement, voilà, c'était donc... j'explique aux auditeurs, c'est d'accompagner des projets radiophoniques.
Voilà.
Et donc, justement, d'aider à des radios à se développer, finalement.
Et de former des... Surtout en Normandie, beaucoup travaillé avec certaines radios pour leur apporter quelques conseils sur l'art de former les animateurs, de former les journalistes. Plus les animateurs que les journalistes, parce que je ne suis pas journaliste, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour ça. Mais pour les animateurs, je travaillais la formation de ces gens-là, parce qu'il y a, j'ai pas encore employé le terme là ce matin, mais l'ADN, c'est quelque chose qui ne doit pas évoluer. L'ADN, c'est quelque chose qui est c'est basique. Donc il faut inculquer cet ADN à tous ceux qui veulent faire de la radio, du côté animateur, du côté technicien également, parce que, quoi que cela dit, maintenant les techniciens, ils auront plus à m'apprendre que moi à leur apprendre, tellement vos outils. Quand on voit la place de votre console, qui n'existe même plus d'ailleurs.
Elles sont cachées. Elles sont derrière nos écrans.
Mais il y a une évolution exceptionnelle. Mais tout ça, ça s'apprend et il faut suivre cette évolution.
Oui, il faut accompagner.
Il faut accompagner.
Et pour rester donc dans ces conseils, dans la formation, j'ai une question qui est presque personnelle, étant donné que j'ai 18 ans. Mais quels conseils vous donneriez aux jeunes donc, qui veulent se lancer dans la radio ?
Vivez votre passion.
Simplement.
Moi, je suis ravi de voir un jeune de 18 ans devant moi qui est passionné, qui se débrouille fort bien. Et vous apprendrez tous les jours. Tous les jours, vous apportera quelque chose de nouveau. Et surtout, n'ayez jamais l'impression d'avoir atteint le sommet. On n'a jamais atteint le sommet. On découvre toujours quelque chose. Et si vous avez l'impression de ne pas découvrir, eh ben allez chercher.
Eh ben c'est un beau message. Et donc, on a parlé donc des animateurs, mais c'est la fête de la radio. Et la fête de la radio...
Vive la radio !
Ça concerne aussi nos auditeurs, parce que sans eux, on ne pourrait
on
pas vivre,
pas.
Évidemment. Est-ce que vous avez un mot à nos auditeurs, à dire à nos auditeurs ?
Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup de chance. Je découvre Happy Radio ce matin, dans des locaux absolument fabuleux. Très grande beauté, très grande modernité. Et cette radio au cœur du Périgord, avec Périgueux, Bergerac et Sarlat, comme point d'ancrage, vous avez beaucoup de chance parce que c'est une radio qui vous apportera l'info locale, des rendez-vous agenda, qui vous apportera de l'info pratique sur la circulation, sur les problèmes météo, les problèmes, les tendances météo. C'est la radio, Happy Radio, c'est la radio qu'il vous faut en étant dans le Périgord.
Et ben voilà.
Quelle chance.
Le message est passé à nos auditeurs. Et ben voilà. Que dire,
vive la radio.
Voilà, vive la radio. C'est Claude Lemaire qui vous dit de rester sur Happy Radio.
On a tous la passion au bout des ondes et il faut la garder, cette passion.
Voilà,
c'est fondamental.
Et donc je vais vous remercier énormément.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Et je remercie donc nos auditeurs, nos partenaires qui font vivre la radio. Ça a été vraiment un grand moment de partage de plus de 20 minutes.
Partagez.
Merci beaucoup, Claude Lemaire. On espère peut-être vous revoir. Et écoutez, on vous souhaite.
Moi, maintenant, je vais me connecter dans ma voiture et à la maison. Sur oui, parce qu'en plus j'ai un poste qui me permet d'écouter en Wi-Fi, donc je vais me brancher sur Happy Radio et je penserai à vous tous les jours.
Et ben voilà, et donc on invite si également ils veulent nous écouter sur internet, nos auditeurs sur happyradio.fr, vous pouvez réécouter cette émission. Merci beaucoup.
5
Claude
et 6
Lemaire.
Juin, fête de la radio.
Fête de la radio.
Fête de la radio, F-E-T-E, et fête de la radio, F-A-I-T-E-S.
C'est exactement comme j'allais conclure, dans les deux sens. Merci beaucoup, Claude Lemaire.